Bénédicte Lussereau, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est notre dernière émission aujourd'hui, donc petite parenthèse pour les auditeurs, quand ce sera le moment des appels pour poser vos questions, c'est la dernière chance pour le faire aujourd'hui, donc n'attendez pas la toute fin de l'émission pour poser vos questions, donc ce sera en deuxième partie d'émission à partir de la pause musicale. Alors, Bénédicte, aujourd'hui, vous allez nous dire ce qui nous empêche d'aimer.
Voilà, parce que force est de constater que qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, il n'est pas rare de constater des difficultés à aimer l'autre, alors son conjoint, la personne avec laquelle on a envie d'être en couple. Voilà, on entend, nous, comme thérapeute, on entend souvent cette phrase « j'ai peur d'aimer, hein, j'ai peur de l'intimité ». Alors, en même temps, quand on dit qu'on a peur, en même temps, on entend un désir. Ça veut dire qu'on a envie. Hein, le désir d'aimer et d'être aimé, dans le fond, chacun, on porte ce désir au fond de nous. Et c'est même notre vocation, puisque toute personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui n'est qu'amour, hein, qui n'est que relation. Et donc, on est fait pour aimer, et c'est ça qui profondément nous rend heureux. Mais du coup, on peut se poser cette question, pourquoi ces peurs, pourquoi ces blocages, pourquoi ces mécanismes qui abîment l'amour dans les couples? Voilà, d'où viennent ces peurs, comment est-ce qu'elles peuvent se traduire, comment est-ce qu'on peut lutter contre elles? Alors, déjà, peut-être, il faudrait débusquer les fausses idées de l'amour, hein. Parce que quand on travaille cette question de l'amour avec des personnes qui viennent en consultation, on entend des choses comme celle-ci, par exemple, l'amour, eh bien, ça doit s'imposer à nous comme une certitude. Voilà. Eh bien, c'est pas évident. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut se passer comme ça. Il peut y avoir un coup de foudre, par exemple, qui soit le début d'une histoire qui se construit. Mais dans le fond, l'amour, ça vient toujours nous déranger, parce que l'amour se présente jamais comme on avait pu le prévoir. Et dans le fond, l'amour nous bouscule toujours. Il n'est jamais conforme à l'idéal qu'on pouvait en avoir. On a tous, au fond de nous, un idéal de la relation amoureuse, un idéal de la femme qu'on rêve, un idéal de l'homme qu'on rêve. Et c'est pas toujours ce qui se présente à nous dans la réalité de notre vie. Autre fausse idée de l'amour, c'est l'idée de l'âme sœur. Hein, ça, c'est très présent aujourd'hui. On voit beaucoup ça dans les journaux féminins, comme s'il existait quelqu'un dont on pourrait dire, eh ben voilà, on va s'ajuster parfaitement, on est complètement fait l'un pour l'autre, comme une clé dans une serrure, par exemple, comme image. Hein, et mais derrière cette idée, il y a cette croyance que sur Terre existerait quelqu'un d'unique qui me correspondrait totalement. Et vous voyez à quel point c'est une illusion, parce que évidemment que d'abord personne n'est parfait. Donc un jour on va se retrouver confronté aux failles de l'autre, à ses manquements, à ses faiblesses. Et c'est là où le risque va être de dire bah, finalement, c'était pas lui, c'était pas elle. Voilà. Et c'est souvent, quand on porte en soi cette idée de l'âme sœur, qu'on est dans le rêve. Hein, le rêve d'un amour idéal, d'un compagnon idéal, qui pourrait nous combler totalement. Alors que la réalité, c'est qu'on ne peut jamais être totalement comblé par quelqu'un. Et puis, pour les catholiques, il y a cette idée parfois qui vient se greffer sur l'idée de l'âme sœur, c'est que Dieu aurait préparé quelqu'un pour nous. Voilà, comme si Dieu avait organisé une grande agence matrimoniale en désignant à l'avance les couples qui pourraient se former. Vous voyez, ça c'est une fausse idée de Dieu, parce que bien sûr, Dieu nous a créés libres et que c'est à nous de travailler la rencontre et de nous ajuster dans la relation à la personne avec laquelle on a des sentiments et pour qui on est attiré. Alors, autre fausse idée de l'amour, on en a parlé, c'est la question de la fusion. Donc la fusion, c'est la passion, ça veut dire qu'il n'y aurait d'amour véritable que si on ressentait une passion folle pour l'autre. Or, on sait très bien que la passion ne dure pas longtemps. En général, on dit 2 ans à 3 ans. La passion, c'est un sentiment très fort qui nous fait, qui nous aveugle un petit peu sur la réalité de la relation, qui nous aveugle sur les défauts de l'autre, et qui fait que on voit pas la différence de l'autre. Hein. On est dans une espèce d'abolition de l'altérité, du jeu et du tout, du tu. Et souvent, ce sont des relations qui deviennent très conflictuelles parce qu'il y en a un des deux qui étouffe et qui veut sortir de la relation. Donc, vous voyez, la fusion, c'est pas l'amour. L'amour, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est. Alors, autre idée, fausse idée de l'amour, c'est que l'amour, ça devrait être un paradis sur Terre. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on aime, on éprouve du bonheur. Hein, le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'être aimé, le bonheur de se donner à l'autre, bien sûr. Mais on ne peut pas exiger de l'autre qu'il nous rende heureux. Hein. Et dans le fond, on peut presque dire que dans le mariage, on ne se marie pas pour être heureux, mais pour aimer l'autre. Et ce n'est pas complètement pareil, même si le fait d'aimer l'autre, ça va nous rendre heureux, bien sûr. Mais il faut se sortir de la tête que l'amour devrait totalement nous combler et aplanir toutes les difficultés. Voilà, on rencontre des difficultés même quand on s'aime d'un amour profond et véritable. Et dernière idée, dernière fausse idée de l'amour, c'est l'amour tout puissant qui viendrait aplanir les épreuves, les difficultés. Bien sûr que non, l'amour n'enlève pas les obstacles. L'amour ne change pas l'autre, l'amour ne guérit pas toutes les blessures de son histoire personnelle. Et voilà, c'est important de dire ça, parce qu'autour de ces fausses idées de l'amour, par derrière, évidemment, il y a des peurs d'aimer, et puis des relations qui piétinent, qui s'abîment. Voilà. Alors, ces peurs d'aimer, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences des peurs d'aimer ou des fausses visions de l'amour dans une relation, qu'on soit dans une relation amoureuse ou qu'on soit déjà dans une relation qui dure, éventuellement mariée depuis un certain nombre d'années? Alors, il peut y avoir des relations qu'on casse. Des mariages qu'on casse, parfois de façon répétitive. Vous voyez, des divorces à répétition, l'échec à répétition. Alors, par exemple, je vais vous raconter une histoire, bien sûr, je change les prénoms, pour faire comprendre un petit peu ces amorces de relations amoureuses, mais qui sont cassées de façon inconsciente. Alors, Juliette vient en consultation parce qu'elle vient de casser une relation avec Jean. Et ça a été compliqué pour elle. Elle n'arrivait pas à arrêter cette relation par une culpabilité mal placée. Et elle était avec Jean, mais pourtant, elle n'avait aucun attrait pour lui. Donc, elle casse cette relation. Et puis, suite à ça, elle renoue avec un vieil ami pour qui naît un vrai sentiment amoureux. Mais elle n'y croit pas. Elle est persuadée que ça ne va pas marcher. Elle a terriblement peur. Et elle est persuadée que dans 6 mois, dans 1 an, elle va le quitter. Parce qu'elle est sûre qu'elle va lui trouver quelque chose qui ne va pas. Et elle dit, mais c'est toujours comme ça. Je trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Alors que c'est une personne qui est jeune, qui est jolie, qui est intelligente, qui a une bonne estime d'elle-même. Et en fait, elle ne comprend pas pourquoi beaucoup d'hommes lui font la cour. Et en fait, quand elle travaille un petit peu son histoire personnelle, elle se rend compte que son papa est un homme qu'elle admire profondément, mais elle le sent triste et déprimé. Et en fait, elle a compris, petite fille, que son père restait avec sa mère par conviction religieuse, alors que leur couple est un couple qui ne marche pas bien, qui est conflictuel. Et en fait, la maman de Juliette passe son temps à dire à sa fille qu'elle ne sera heureuse que lorsque sa fille se mariera, qu'elle ne peut pas être heureuse si sa fille ne se marie pas. Et le jour où sa fille se marierait, alors elle pourrait divorcer d'avec son mari et se rapprocher de sa fille, et puis d'être une bonne grand-mère avec ses petits-enfants. Et vous voyez, Juliette ne veut pas de cela. Elle ne veut pas se sentir obligée de faire le bonheur de sa mère sans faire évidemment son propre bonheur. Et puis en plus, comme elle sait que son père est déprimé, elle se dit peut-être bien qu'il risque de plonger dans une dépression encore plus profonde, voire de faire des tentatives de suicide si sa mère demande le divorce. Et vous voyez, pour Juliette, engager une relation sérieuse avec un homme, eh bien quelque part ça équivaut à provoquer le divorce de ses parents. Et à rester bien sûr sous la domination de sa mère, quitte peut-être à provoquer le suicide de son père. Alors, elle est rentrée dans quelque chose au niveau de ses comportements, où pour elle, c'était plus facile de jouer avec les hommes et puis de se séparer d'eux dès que ça pouvait devenir sérieux. Voilà, jusqu'au jour où elle a renoué avec ce vieil ami et elle s'est dit stop. Elle a voulu sortir de ce rôle de séductrice et elle a décidé de venir en thérapie pour arrêter cet engrenage, de casser les relations. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, des personnes qui amorcent des relations et puis qui, au bout d'un certain temps, cassent. Voilà. Même quand la relation est bonne. Et puis, il y a des amours qui sont foireuses. C'est-à-dire que on est avec quelqu'un et puis on a la conviction que la personne ne correspond pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tout le temps faire pression pour qu'il s'améliore, pour qu'elle s'améliore. Et on est persuadé qu'on sera heureux que lorsque l'autre va changer et qu'il va devenir ce qu'on a en tête. Voilà. Qu'alors ça pourra coller. Vous voyez que là, ça, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il est. On aime un rêve, un fantasme. Je me rappelle d'une femme qui disait que son mari n'était pas assez cultivé, qu'elle s'ennuyait à table avec lui. Et pourtant, c'était un homme bon, il y avait de l'amour véritable. Et en fait, quand elle a travaillé un petit peu cette pression qu'elle se mettait elle-même parce qu'elle trouvait que son mari n'était pas suffisamment cultivé et du coup, ça l'éloignait de lui, elle s'est aperçue qu'elle aimait encore son père, qui monopolisait la parole à table chez elle. Et elle n'arrivait pas à quitter ce modèle. C'est-à-dire qu'un homme, pour elle, devait animer les soirées, devait prendre la parole à table et mettre de l'animation. Voilà. Donc elle n'arrivait pas à se détacher de cette image de son père pour aimer véritablement l'homme qui était en face de lui. Voilà. Donc il y a des personnes qui aiment un idéal d'homme, un idéal de femme, et qui bien sûr, en général, se rattachent à ce qu'ils ont connu dans leur famille. Et puis, aujourd'hui, il y a toutes les relations virtuelles, voilà, qui cachent les peurs d'aimer. On voit beaucoup de jeunes qui sont en couple, mais à distance. Ou alors des couples, en fait, il y en a un qui est en célibat géographique pour son travail, qui part beaucoup à l'étranger. Voilà, par exemple... Voilà, je me rappelle d'un couple, alors jeune, Jean et Estelle, qui ont construit une relation. Ils se sont rencontrés un été, à un grand rassemblement de jeunes. Et puis, ils ont commencé leur relation en correspondant par mail, voilà, de façon très régulière. Et ils pensaient apprendre à se connaître comme ça. Ils ont constaté que leurs valeurs étaient les mêmes. Et puis, ils ont commencé à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Voilà, de temps en temps, ils se retrouvent pour un week-end dans un pays, dans l'autre. Et puis là, évidemment, ça se passe très bien. Mais un beau jour, ils ont décidé de passer 15 jours ensemble pour des vacances. Et en fait, là, ça a été l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont réalisé qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ont fantasmé l'un sur l'autre. Ils ont prêté à l'autre mille qualités. Ils se sont échangés beaucoup de belles paroles, mais en fait, ils avaient créé une relation virtuelle qu'ils avaient idéalisée. Ils sont restés dans le rêve. Et beaucoup de couples aujourd'hui mariés font la même chose lorsque l'un des deux est obligé pour son travail de vivre au loin. Du coup, il se parle au téléphone, il s'envoie des textos, mais ils s'éloignent en fait affectivement l'un de l'autre et ils se mettent en danger. Et puis, on voit beaucoup de couples aujourd'hui qui construisent leur relation avec des textos, voilà, qu'ils échangent 10 fois par jour. Mais en fait, ça vaut pas des rencontres en chair et en os. On sait très bien que 80%, 90% même de la rencontre amoureuse se fait dans la rencontre de deux inconscients, ce qui veut dire par l'échange du non-verbal entre les personnes. Hein. Qu'est-ce qui va nourrir un amour ? Eh bien, ça va être de cultiver l'attirance qu'on a eue l'un l'autre au début de la relation. Et cette attirance, elle se cultive. C'est pas nécessairement la beauté comme on croit aujourd'hui qui fait l'attirance, pas du tout. En fait, c'est plutôt une manière d'être, un comportement, une façon de parler, de se tenir, une façon de se regarder, une intonation de voix, une façon d'incliner la tête, etc., qui intéresse, qui intrigue. Et pour ça, il faut se voir en chair et en os. On a parlé une séance de toute la place du corps dans l'amour. Évidemment, le corps a une place très importante si on veut cultiver un amour. Quand on n'aime pas son corps, parfois c'est plus facile d'aller créer des relations virtuelles. Quand on n'a pas très confiance en soi, quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on peut se sentir plus à l'aise dans une relation à distance qui remet moins en cause. Mais évidemment, la relation ne va pas être aussi solide qu'une relation où on est ensemble, on partage une vie ensemble. Et puis, donc cet amour de la passion qu'on peut avoir, des sentiments, c'est-à-dire j'aime plus ce que je ressens que l'autre en chair et en os. Vous voyez, on peut être dans une vraie relation avec quelqu'un, mais être déçu par ce qu'on ressent. Et voilà, je vois beaucoup de couples qui sont dans cette phase où en fait, il y a une maturité de l'amour, parce que il y a un moment où le sentiment amoureux peut s'émousser, alors que l'amour véritable reste. Mais si on est persuadé que l'amour, c'est que la passion, ben, qu'est-ce qui va se passer ? On va rompre, on va aller chercher la passion ailleurs. Voilà. Et ça, c'est un danger. Des personnes qui ont peur que la passion disparaisse et qui, du coup, sont pas capables d'évoluer dans la relation pour créer quelque chose de nouveau, de plus de tendresse, plus d'intérêt mutuel. Voilà. Et quand on est dans l'amour de la passion, finalement, on est très centré sur soi, beaucoup plus que sur l'autre. On peut finalement n'aimer que ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ses propres centres d'intérêt, et petit à petit, eh ben, l'autre n'existe plus. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a un moment dans sa vie où il faut aller voir qu'est-ce qui crée ses peurs d'aimer, ses peurs d'approfondir l'intimité avec l'autre. Et très souvent, ça vient des blessures de l'enfance, ça vient de notre histoire familiale, parce qu'on est tous pétris de nos relations avec nos parents, avec nos frères et sœurs, qui nous ont marqués dans le fond profondément, qu'on le veuille ou non. On n'est jamais indemne de son histoire, parce que notre histoire nous a façonnés, et c'est le terreau dans lequel on a grandi et qui a façonné notre idée de l'amour, notre idée des relations. Et donc, quand on s'aperçoit que c'est compliqué de durer dans l'amour ou de faire grandir cet amour, comme nous dit le pape François, le couple, c'est la croissance d'un amour, le mariage, c'est un chemin dans lequel on s'engage à grandir dans l'amour, eh bien, un jour ou l'autre, il faut aller voir qu'est-ce qui a pu être douloureux dans notre histoire personnelle, ou en tout cas qu'on a vécu de façon douloureuse, parce que c'est très subjectif, mais qui a pu nous marquer de façon inconsciente et créer des peurs d'aimer, des peurs de se révéler, des peurs de l'intimité, des peurs de se donner. Voilà, je peux donner des exemples. Par exemple, l'histoire de Marie-Josée, par exemple. Marie-Josée, quand sa maman était enceinte d'elle, eh bien, la petite fille qui était née avant elle est morte d'un accident dans une piscine. Voilà. Et évidemment, ça a été un traumatisme pour la maman, qui a été très peinée et déprimée. Et en fait, Marie-Josée a pris conscience que toute sa vie, elle avait voulu consoler sa maman, qui avait vécu cette perte dramatique. Et donc, elle est rentrée dans un rôle où elle s'est faite petite souris pour ne jamais contrarier sa maman, pour pas rajouter de la peine à la peine que sa maman avait déjà. Et du coup, inconsciemment, elle s'est interdite de se marier pour rester présente à sa maman. Ça, évidemment, elle l'a découvert bien après, quand elle s'est posé la question de se dire « Mais comment ça se fait que j'arrive pas à créer une relation amoureuse et à avancer vers le mariage ?» Voilà. Autre exemple, la maman de Jean est restée profondément handicapée à la suite d'un accident et a dû vivre dans une maison médicalisée. Et Jean avait 9 ans à ce moment-là. Il a eu le sentiment que le lien avec sa maman s'est rompu. Voilà. Et il dit, ce qui faisait ma sécurité s'est cassé tout d'un coup. Évidemment, ça a été une blessure immense qui va rejaillir ensuite sur sa vie affective. Voilà, Jean s'est construit en se disant à quoi ça sert de tisser un lien puisque de toutes les façons, ce lien va se rompre. Si c'est un lien d'amour affectif, un lien fort, de toutes les façons, ça va se rompre comme ça s'est rompu avec maman. Voilà, donc vous voyez, dans nos histoires familiales, il y a ces événements douloureux, ces deuils, voilà, la perte d'un parent, d'un frère, d'une sœur, qui quelquefois sont des plaies qui restent purulentes, qui sont pas cicatrisées, et qui peuvent, à un moment donné, être un vrai poison pour nos relations affectives et amoureuses. Ça peut rejaillir dans la vie d'un couple. Voilà, dans les étapes de la vie d'un couple, parfois on comprend pas très bien, ce qui se passe. Pas plus tard qu'hier, j'accompagnais un couple et elle se rendait pas, elle comprenait pas pourquoi elle pouvait pas s'empêcher d'être méchante avec son mari quand son mari lui demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Et en fait, elle était méchante parce qu'elle lui disait « Mais t'as qu'à le voir tout seul, t'es assez grand. » Et alors, je lui disais « Mais votre mari est prêt à vous rendre service, il veut pas se tromper, donc il préfère vous demander l'ordre de priorité dans lequel vous voulez avoir un service. » Et en fait, c'est une femme qui a été abandonnée par sa mère à l'âge de 1 an, qui a été confiée à la DAS, qui a été ensuite dans une famille d'accueil et ensuite, à 6 ans, a été adoptée par une famille adoptive. Donc, c'est une femme qui a vécu de multiples abandons. Et en fait, elle s'est construite en se disant, dans la vie, il faut se débrouiller seule. Elle a vécu comme ça pour s'en sortir, pour pas trop souffrir, parce qu'elle a souffert, mais pour cacher sa souffrance et puis avancer dans la vie, elle s'est dit, je me débrouillerai seule. Et en fait, elle projette sur son mari le fait que lui aussi, il doit se débrouiller seul. Puisque moi, je me suis débrouillée seule, eh ben lui aussi, il doit se débrouiller seul. Et en fait, je lui ai fait comprendre que le fait qu'il demande « qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service ?», c'est pas qu'il est pas capable de se débrouiller seul, c'est juste qu'il est dans une relation d'entraide mutuelle et de voilà d'échange et de soutien mutuel. Et ça l'a beaucoup éclairé de comprendre ça, de comprendre qu'en fait elle reproduisait des choses qu'elle avait mis en place dans son enfance et qui finalement venaient abîmer la relation de son couple. Alors évidemment il y a les places de chacun, par exemple, dans une famille. Hein, dans une famille, c'est un peu comme une maison à plusieurs étages. On peut dire chaque génération habite un étage. Au rez-de-chaussée, les enfants. Au premier étage, les parents. Et puis au deuxième étage, les grands-parents. Voilà. Alors, les escaliers sont là pour permettre une bonne communication entre les étages. Mais c'est important que chacun habite au bon endroit pour ne pas mélanger les générations. Et c'est très important, cette notion de place, pour la construction de l'identité de chacun. Si les générations sont mélangées, eh bien ça crée de la confusion. Parce que l'enfant peut être parentifié, alors du coup son enfance lui est comme volée, et du coup ça fait des personnes qui, adultes, ont envie de revivre comme un enfant, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a volé leur adolescence ou leur enfance. Le parent peut être infantilisé, et alors du coup l'enfant ne sait plus qui il est, il ne sait plus où est sa place. Par exemple, dans un couple très conflictuel, l'enfant peut devenir le confident de son père, par exemple. Le père peut raconter toutes les difficultés conjugales qu'il rencontre avec son épouse. Et vous voyez, ça va parasiter la vie de l'enfant. L'enfant n'a pas à être le confident des parents. Ou alors, une maman qui raconte à son fils de 13 ans combien son père a été odieux avec elle pendant leur nuit de noces. Vous voyez, ce fils, il n'a pas à savoir ça. Il n'a pas à savoir combien toute la vie sexuelle de sa mère a été synonyme de souffrance. Ça, c'est le mettre à une place qui n'est pas la sienne et qui peut parasiter sa vie sexuelle plus tard et abîmer l'amour qu'il aura avec son épouse. Ou alors, un garçon, par exemple, qui perd son papa très jeune et qui va tenter de le remplacer auprès de sa maman. Voilà, qui quelque part, devient le chef de famille. Alors, il prend en main l'éducation des autres, il s'occupe de gérer les affaires familiales. Voilà. Et vous voyez, c'est pas sa place. Bien sûr qu'il le fait pour éviter à sa maman de tout gérer seule et tout. Ça part d'une bonne intention. Et lui, c'est une façon de camoufler la souffrance aussi du deuil de son père. Mais en même temps, ça va le positionner dans une attitude qui est pas juste. Et ça risque de brouiller les cartes dans son couple plus tard. Voilà. Donc voilà, toutes ces blessures. Alors bien sûr aussi, il y a tout ce qu'on a pu vivre au niveau des relations dans la famille. Parce qu'il y a des relations familiales qui sont assez toxiques. Il y a des relations familiales qui sont faites de paroles dures, dévalorisantes. Il y a des familles dans lesquelles on se fait des reproches tout le temps, où on se moque. Ou alors, on peut menacer, ah, si tu fais pas ça, ben, je te laisse. Alors, vous voyez, pour construire une relation amoureuse durable, ça veut dire que la personne va rentrer dans un comportement où je me sens obligée de toujours faire plaisir à l'autre, parce que si je lui fais pas plaisir, le risque, c'est la rupture, c'est qu'il me laisse, qu'il m'abandonne. Voilà, on voit des adultes qui arrivent dans le couple en étant persuadés qu'ils sont nuls, en étant persuadés qu'ils arriveront jamais à rien. Vous voyez, tout ça, c'est des croyances qui sont héritées de l'enfance, dont il faut se débarrasser. Sinon, on va rejouer dans le couple, dans la relation amoureuse, des scénarios qui vont être des scénarios de souffrance. Voilà, au lieu de faire du bien à l'autre, on va risquer de lui faire du mal et de se faire du mal à soi. Voilà. Alors, il y a par exemple l'histoire de Joseph qui a été très marqué par l'autoritarisme de son père quand il était jeune. Son père était violent, il régnait en maître sur toute la famille, d'ailleurs sur sa femme, hein, comme sur ses enfants. Et il fallait absolument que son point de vue soit partagé par tout le monde. Sinon, tout le monde se fait engueuler et ça allait de l'injure verbale au coup. Et en fait, Joseph, quand il est devenu adulte, il s'est rendu compte, bien sûr, qu'il avait souffert en tant qu'enfant, quand adolescent aussi, de l'attitude de son père. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il était rentré lui aussi dans un comportement où il avait tendance à imposer ses idées aux autres. Voilà, qu'il était devenu aussi intransigeant et autoritaire, alors que ça le faisait souffrir, cette attitude de son père. Et dans ses relations amoureuses, il laissait pas de place à l'autre. Voilà, l'autre était sous domination parce que c'est lui qui imposait ses idées de façon très abrupte et finalement, en travaillant cette souffrance qu'il avait de la relation avec son père, eh bien, il s'était persuadé que pour exister en tant qu'homme, il fallait s'imposer. Voilà, il a dû travailler cette croyance pour l'assouplir, la modifier et se dire être homme. être époux, eh bien c'est autre chose que de s'imposer et de faire régner la loi. Voilà. Donc, bon, il faut que j'abrège là pour laisser du temps des questions. En fait, toutes ces blessures, ces traumatismes, on en a tous. Faut pas croire que notre enfance n'a été que bonheur et insouciance, parce que c'est pas vrai. Même si on a un petit peu idéalisé son enfance, il y a des moments dans notre vie où c'est important d'aller débusquer ces fausses idées de l'amour qui peuvent traîner en nous. Et puis, qu'est-ce qui entraîne des amours dans nos relations affectives, dans nos relations conjugales? Parce que il y a véritablement un travail de vérité à faire pour pouvoir se libérer de croyances, de comportements répétitifs, de scénarios d'échecs qu'on peut répéter comme ça sans le vouloir et qui, dans le fond, nous font souffrir, alors que notre désir le plus grand, c'est d'aimer notre partenaire, notre conjoint, notre mari ou notre femme, d'aimer nos enfants et pas de se comporter en personne tyrannique, exigeante, critique. Voilà, donc il y a ce travail psychologique d'aller rechercher ce qui a pu nous faire souffrir pour libérer les émotions négatives qui se sont développées autour de ce qu'on a pu vivre. Et puis petit à petit, voilà, resituer tout ça dans la vérité de qui on est, qui on veut être, et se réconcilier avec son histoire, c'est-à-dire accorder des pardons à notre père, à notre mère. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu en fonction de qui ils étaient, de leur propre histoire personnelle. Mais nous, si on veut vivre libre et continuer à avancer en aimant, en étant libéré pour aimer, eh bien, il va falloir poser des pardons. Voilà, poser des pardons pour tout ce qui a pu entraver notre capacité à aimer et nous permettre d'être vraiment libre, d'aimer de façon légère, joyeuse, sans contrainte, que ce soit conforme à qui nous sommes véritablement. Voilà.
Alors Bénédicte, en attendant que des auditeurs appellent, j'ai peut-être une question. Vous avez parlé des conséquences que les deuils vécus pendant l'enfance peuvent avoir justement sur la vie amoureuse à l'âge adulte. Est-ce que, je vais imaginer un cas, imaginons qu'il y ait les parents d'une personne qui est divorcée pendant son enfance et que les grands-parents, la génération avant, les grands-parents aient également divorcé. Est-ce que une personne ne peut pas se dire, ben, c'est une malédiction familiale, je vais de toute façon divorcer moi aussi?
Alors, bon, il y a deux questions dans cette question. Il y a la première question qui est l'imitation, c'est-à-dire quel est le modèle d'amour qui est transmis par le transgénérationnel. C'est-à-dire, ce qui est transmis, c'est qu'un couple, ça peut pas durer. C'est qu'un couple, on ne peut être heureux en couple que pendant un certain temps et après, on est contraint de divorcer. Voilà. Et ça, évidemment que ça va entraîner des peurs d'aimer, des peurs de la relation et des peurs de s'engager surtout. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont peur de s'engager parce que ils disent, mais finalement, nos parents, nos grands-parents, ils s'étaient promis de s'aimer finalement toute leur vie et finalement, leur promesse n'a servi à rien puisque de toute façon, leur vie conjugale a été conflictuelle et ils se sont séparés. Ça a terminé par une rupture. Et donc, ils ont conclu que ça n'est pas possible de s'aimer pour toute la vie. Voilà. Donc, il y a comme une impossibilité. Du coup, on voit des jeunes qui s'engagent dans le mariage. Et en fait, il y a des mariages qui sont nuls parce qu'ils s'engagent dans le mariage avec l'idée que si ça va pas, de toutes les façons, ils changeront de partenaire. Et là, c'est une des clauses de nullité de mariage, parce que finalement, la promesse de fidélité n'était pas profonde. C'est juste superficiel. Ils disent « je te resterai fidèle jusqu'à ce que ça n'aille plus entre nous ». parce que dans le fond, je vais faire comme mes parents et mes grands-parents. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La question de la malédiction, ça, c'est un petit peu autre chose. Alors, est-ce qu'il y a véritablement une malédiction ? D'abord, il faut croire aux malédictions. Alors, la bénédiction, on sait ce que c'est. La malédiction, c'est comme c'est un esprit mauvais, voilà, qui se serait emparé d'une lignée familiale. Alors, il peut effectivement y avoir des esprits d'impureté, des esprits de violence, des esprits de manipulation qui viennent abîmer les liens affectifs dans une famille et du coup provoquer des divorces. Parce que c'est pas possible de vivre avec quelqu'un de violent, c'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui boit, qui a une dépendance à l'alcool trop forte et... Voilà, du coup, là, on peut se poser la question d'une malédiction, mais on passe, du coup, dans le registre du spirituel, hein, de la délivrance, voire de l'exorcisme. Donc, on n'est plus sur le registre simplement psychologique, mais on passe à un autre domaine qui n'est pas complètement, les effets sont les mêmes, mais on ne peut pas mélanger les deux niveaux, le niveau psychologique et puis le niveau spirituel.
Merci Bénédicte. Nous avons donc une auditrice qui a appelé pendant ce temps-là. Donc il s'agit de Thérèse et voilà, je vous préviens Bénédicte, et Thérèse est assez émue. Donc Thérèse, c'est à vous. Vous pouvez parler à Bénédicte.
Bonjour Thérèse. Je voulais pas appeler. Mais c'est pour dire bon, je suis âgée, mais que c'est vrai que bien souvent, on ne fait pas attention, les parents ne font pas attention parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça. Mais j'ai eu un père violent. Nous étions nombreux dans la famille et ça a été des coups. Et souvent, même moralement, il nous disait que nous n'étions valables de... On n'était pas capable de faire rien de valable, quoi, de rien de bon. Et que j'en étais persuadée toute ma vie, même jusqu'à maintenant. Je suis âgée, même jusqu'à maintenant, je suis persuadée que je ne vaux rien, que je suis capable de rien. J'ai toujours des pensées négatives. Je vois toujours le mal avant de voir le bien chez les autres, même chez moi.
Voilà. Alors Thérèse, là d'abord merci parce que voilà, vous êtes très courageuse de prendre la parole en plus sur les ondes et vous décrivez exactement les conséquences négatives sur le psychisme d'un enfant et puis sur la construction de sa personnalité, l'effet de violence, qu'elle soit psychologique ou physique, quand on est victime de violences psychologiques ou physiques, le premier réflexe, mais ça c'est tout le monde, c'est humain, c'est de se dire puisque on me maltraite, c'est que je ne vaux rien, je suis nulle. C'est un mécanisme psychique de défense contre la souffrance et au lieu d'accuser notre parent, parce que ce qui est très compliqué pour un enfant, c'est qu'un enfant, il est pris dans le paradoxe d'amour et de haine. C'est-à-dire ce parent qui me bat ou qui me dit des choses violentes verbalement, je l'aime parce que c'est mon parent, donc il y a un lien d'amour. Et en même temps, ce qu'il fait, c'est insupportable. Et l'enfant n'est pas capable de faire la différence entre la personne et les actes. Ce qu'on peut arriver avec la maturité de l'adulte, on peut dire j'aime une personne, mais je déteste ce que cette personne me fait. Voilà. Et donc, comme c'est trop compliqué pour l'enfant de dire mais mon père est violent, c'est un salaud, il est pourri, enfin il ne peut pas sortir toute cette colère. Et ça. Du coup, il retourne la colère contre soi en disant je suis nul et si mon père me bat, eh ben, je dois le mériter. C'est donc de ma faute. Et ça, c'est une culpabilité très malsaine, très mal placée, qui vient parasiter toutes les relations affectives parce qu'après, on se positionne dans les relations affectives comme une personne nulle, comme une personne pas capable d'être aimée, indigne d'amour, Et du coup, on va choisir des partenaires qui ne nous font pas du bien. Voilà. Donc il faut absolument dénoncer cette violence et puis la travailler les conséquences de la violence pour restaurer l'estime de soi, l'estime de vous-même. Thérèse, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un d'aimable, vous êtes quelqu'un de digne, vous êtes digne d'être aimé de façon paisible, voilà, pour ce que vous êtes. Il faut vous libérer de ces croyances négatives sur vous-même qui vous font du mal.
Ce qu'il y a, c'est que moi-même, je suis devenue violente, je me suis mariée. Je suis devenue violente envers mes enfants. Eux-mêmes sont devenus violents envers leurs enfants. Je suis arrivée à penser que si on m'avait épousée, c'était pour être juste pour laver les chaussettes et les fonds de culotte, comme je dis, pardon pour l'expression, mais pour être la servante, la serpillière de l'homme. Et je me suis révoltée contre ça pendant des années. Et j'ai eu cette haine profonde de l'homme qui ne m'aimait pas pour moi-même, mais pour ce que je pouvais faire, à quoi je pouvais servir. Voilà.
Bien sûr. Mais il n'est jamais trop tard pour entamer un chemin de transformation intérieure. Voilà, mais choisissez un bon thérapeute autour de vous que vous pouvez avec qui vous pouvez aller lâcher tout ça, travailler tout ça, parce que vous n'êtes pas une personne mauvaise. Vous voyez, vous avez été victime de violence. Et vous avez été dans la reproduction parce que vous n'avez pas trouvé d'autres moyens de faire, mais vous pouvez trouver d'autres moyens de faire. Et aujourd'hui, en plus, vous pouvez demander pardon pour la violence que vous avez vous-même exercée. Donc, il n'est jamais trop tard pour avancer, poser des pas et tout. Au lieu de se faire du mal à soi-même en se disant « je suis une personne mauvaise », eh bien, vous avez une liberté aujourd'hui à exercer et vous pouvez travailler ça. Vous pouvez dire à vos enfants, à vos petits-enfants « voilà, ben, je vous demande pardon ». J'ai pas fait ce que je voulais faire, je vous ai fait du mal, voilà. Vous voyez, c'est très libérateur, ça. Et puis, si vous êtes croyante, eh bien, rencontrez un prêtre, déposez ça dans le sacrement de réconciliation, parce que Dieu nous reconstruit. Il nous veut du bien, il nous fait du bien.
Oui.
Voilà, l'avenir n'est pas bouché. Vous voyez, ne restez pas crispé sur votre passé, mais ouvrez-vous à un avenir meilleur de douceur. Il y a un travail à faire de vérité pour ça. Voilà, il faut se mettre en marche vers une réconciliation avec votre passé, avec ce qui vous est arrivé, toutes ces blessures-là qui vous ont malmené, qui vous ont fait du mal. Voilà. D'accord ?
Merci. Oui.
Bon, en plus c'est le carême, c'est le bon moment pour faire ce chemin.
Oui, merci.
Merci Thérèse, au revoir.
Merci.
Alors Bénédicte, nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Alors il y a un SMS qui est arrivé pendant l'intervention de Thérèse, donc je vous le lis, on va prendre peut-être deux, trois petites minutes pour y répondre. Voici donc ce SMS. Bonjour Bénédicte, merci pour votre émission. Je suis tombée sur votre émission ce matin, mais il n'y a pas de hasard. J'ai un compagnon depuis 2 ans et demi, mais nous ne vivons pas ensemble, car il n'a jamais connu la vie de couple et ne souhaite pas se marier. Nous habitons à 7 minutes l'un de l'autre, mais nous passons très peu de temps ensemble. Par contre, il n'arrête pas de m'envoyer des textos et de m'appeler. Je souhaite le faire réfléchir rapidement sur notre relation, car mon amour pour lui s'éteint et j'en souffre. Mais comment ? Merci pour votre réponse, Catherine.
Eh bien, se méfier de la relation virtuelle, parce que peut-être bien que cet homme est en train d'abord de jouer avec vos sentiments. Je dis pas ça méchamment parce qu'il le fait peut-être pas du tout de façon consciente, mais c'est peut-être un homme qui, dans le fond, a des peurs de s'engager. À cause de son histoire personnelle, et du coup il préfère ces échanges de textos à créer une relation vraie en chair et en os. Et donc ça, il faut le vérifier très vite, parce que sinon vous allez partir dans quelque chose d'amoureux. Les femmes, elles sont plus sensibles Et voilà, vous êtes peut-être en avance sur le plan affectif et émotionnel par rapport à lui. Et donc, il faut vérifier que cet homme soit capable d'avoir une relation réelle de personne à personne, où la place du corps, de la vue, des gestes, des paroles est très importante. Sinon, on est dans le virtuel et c'est pas un amour véritable. Donc, il faut avoir le courage d'aller vérifier.
Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte, donc pour cette série d'émissions.
Merci.
Et puis peut-être à bientôt sur d'autres sujets.
Tout à fait. Eh bien, je remercie tous les auditeurs et puis Radio Maria.
Voilà, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.